plus de 10 ou 15 ans ont été les trois villes de France où il faisait le meilleur vivre. Aujourd'hui, c'est plus elles qui sont au top du classement.
Non.
Il y a peut-être un lien entre ces villes et le fait qu'il y fait très bon vivre, en fait. Voilà, je me pose des questions.
Ah bah moi, j'aime bien le bruit des villes. Du beau temps, quand même.
Ah ouais, mais tout le temps, moi, j'avoue que le bruit des villes m'envahit et qu'effectivement, dans les villes qui sont citées, notamment Marseille, où je vais régulièrement, je suis envahie par le bruit ambiant.
Ah, j'adore.
Mais il y a plein de gens qui adorent. Mmh. Et moi, j'aime le silence. Donc,
ah oui.
Voilà.
Bah donc, restez à Dijon, mais c'est ça. Dire, puisqu'on n'y parle pas.
C'est bien raison.
C'est exactement
ça. Vous avez
ça.
Très bien choisi votre ville. Emma.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie. Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer. Bah, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors, à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, on va tenter d'aider Grégory. C'est un militant pacifiste russe réfugié en France.
Oui, Grégory, il a 31 ans. C'est lui qui nous a contactés. Hein. Cet activiste russe a dû quitter son pays il y a 2 ans, juste après le début de la guerre en Ukraine. Sa vie était menacée compte tenu de son engagement politique pour la paix. La France lui a officiellement accordé le statut de réfugié. Ça, c'est fait. Il est aujourd'hui installé en Île-de-France. Il travaille comme informaticien. Sa prochaine étape, c'est d'obtenir un titre de séjour valable 10 ans et qui lui ouvrirait de nombreux droits. Écoutez.
Je ne peux toujours pas ouvrir un compte bancaire. Je ne peux pas me déplacer en dehors de la zone Schengen, pouvoir déménager, pouvoir passer le permis. Il y a vraiment pas mal de freins à la vie normale.
Alors son dossier est déposé depuis 7 mois, il a un récépissé pour le prouver. Sauf que le récépissé, il expire dans 5 jours.
Ah.
Et voilà, sa demande n'a toujours pas été traitée et il risque du coup de perdre son travail, c'est pour ça qu'il nous a écrit.
Je serais tellement reconnaissant à la France pour m'accueillir, mais il ne s'agit pas de droits pleins. Il s'agit de droits partiels en quelque sorte. Et je parle bien français, je m'assimile plutôt bien. Et je ne peux même pas imaginer comment c'est pour les autres. Quoi.
Dans la préfecture dont il dépend, le délai de traitement affiché normalement d'une demande de titre de séjour, c'est 3 mois maximum. On est déjà à plus du double.
Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que des auditeurs vous contactent pour ça.
Oui, et le problème est toujours le même. Des délais à rallonge qui plongent ces étrangers qui sont légalement installés sur le territoire français dans des situations parfois dramatiques, à perdre leur emploi, à ne plus pouvoir payer leur loyer.
Il y avait une brésilienne d'ailleurs qui habitait dans le sud, je me souviens.
Exactement, qui avait une marque qui faisait des vêtements de yoga, qui n'arrivait plus à payer son loyer, qui a failli se retrouver sans emploi alors qu'elle était très bien intégrée. Aujourd'hui, la procédure pour obtenir un titre de séjour se fait entièrement en ligne sur le site de l'ANEF, c'est l'administration numérique des étrangers en France, et la plateforme rencontre régulièrement des problèmes.
Oui, alors le problème, c'est que Grégory, en fait, il est victime de ça et il doit prendre son mal en patience, quoi. Mais sauf que ça, c'est urgent, parce que dans 5 jours, c'est fini, quoi.
Et oui, c'est ça. Alors, il doit prendre son mal en patience et il a bien fait de nous écrire, parce qu'avec un petit coup de pouce de notre cellule RMC, souvent ça marche, ou en tout cas, ça aide un peu. Juste après notre interview, hasard ou non, c'est vous qui déciderez, Estelle, le récépissé de Grégory a été prolongé de 3 mois. Youpi.
Ce n'est pas un hasard, j'ai décidé.
Jusqu'au 8 août prochain, donc c'est pas terminé. Hein. Là, c'est une prolongation du récépissé pour laisser le temps à la demande d'être traitée. Raison affichée de délai, difficulté de fonctionnement du service. Avec Nicolas Traîneau, nous avons fait remonter son cas directement au ministère de l'Intérieur, qui est en train de l'examiner et qui nous a appelé hier pour nous informer qu'effectivement, certains documents avaient été perdus et que ça peut arriver. Bon. De son côté, l'administration, numérique des étrangers en France, nous assure que des efforts considérables sont déployés pour que ça marche mieux. Une équipe travaille jour et nuit. Le système d'information est en cours d'amélioration. C'est des jolies promesses et on y veillera parce que vous nous connaissez.
Je vous connais, Amélie, et on croise les doigts pour Grégory parce que voilà, il a un boulot, il est très bien.
Exactement.
Il parle parfaitement français.
Ouais, il parle très bien.
Que 2 ans qu'il est là.
Ouais.
Il a quasiment pas d'accent, donc on espère que ça marchera pour lui et puis pour tous ceux qu'on aide effectivement à pouvoir rester ici en France et prolonger leur titre de séjour. On sait que les préfectures sont débordées et que c'est souvent extrêmement compliqué et on se retrouve dans des situations souvent inextricables. Merci beaucoup, Amélie. On parle de quoi demain?
On va vous révéler une enquête sur l'eau du robinet que vous pensez propre. Ah oui. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Ça peut être contaminé, ça peut être grave.
Bah super, merci Amélie.
Bah non, j'informe comme
c'est
ça.
C'est pas du anxiogène.
Ça vous tombez pas malade. Bon, grâce
bah,
à moi.
Eh bah écoutez, merci.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Tous les matins dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
En ce moment, envoyez roux par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer roux et pas argent par exemple?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC, dès que vous entendez.
Envoyez roux par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roux au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Le chiffre du jour, 350 millions, c'est donc la somme que McCain, le géant mondial des frites surgelées, va investir en France. Le marché de la frite, ainsi que celui des plats industriels en général, se porte très bien dans notre pays. Ce qui explique, Rémi, que nous passons de moins en moins de temps en cuisine.
Il faut l'admettre, les chiffres le disent, d'après une étude menée par l'École d'économie de Paris. Entre 1985 et 2010, le temps passé à cuisiner est passé de 68 à 55 minutes par jour.
Ouais, c'est pas mal.
Une réduction de 60%, c'est une moyenne, hein. Oui. Une réduction de 60% liée, selon les chercheurs, à l'intégration des femmes au marché du travail. Elles ont moins le temps de cuisiner. Or, traditionnellement, ça restait beaucoup, hein, les femmes qui se chargeaient de préparer les repas. Mais c'est dû aussi au développement des plats préparés. Tu l'as évoqué, Estelle, le premier plat vendu en France, il date de quand? C'est pas si vieux que ça. Hein. Premier plat préparé, c'est 1968.
Mais c'est quoi, hein, le plat préparé? T'appelles quoi?
Un plat tout fait. Les lasagnes surgelées.
Voilà, Findus lance en 1968 son cabillaud à la bordelaise et son cabillaud à la provençale surgelé.
1973, bien sûr.
C'était tellement bon, le cabillaud à la bordelaise.
1973, c'est le premier plat préparé non surgelé. C'est Fleury Michon. Cette fois, c'est la langue de bœuf sauce piquante.
Ah,
depuis,
ça n'a pas dû marcher, ça.
Depuis, la gamme des plats tout prêts s'est considérablement élargie. La consommation augmente en moyenne de 5%. Chaque année. S'y ajoutent aujourd'hui les plats à emporter, le snacking, moins de temps de passer en cuisine, donc, et même si 62% affirment souvent cuisiner maison, c'est du déclaratif, ils ne sont que 24% à préparer eux-mêmes tous leurs plats.
Oh, ça fait quand même un quart des Français qui préparent tous leurs plats.
Bah oui.
Non, mais il faut avoir le temps pour préparer tous tes plats.
Absolument.
Non, je l'organise.
Alors, sommes-nous devenus des feignants en cuisine? Je commence avec vous, Daniel.
Je me sens pas trop concerné parce que je prends beaucoup de temps pour ça.
Alors, c'est après, pour ça.
Est-ce que j'entre dans la catégorie quand hier soir j'ai eu la flemme, je suis allé chercher un poulet rôti chez le boucher? C'est la flemme.
Bah, si tu non, poulet rôti, ça va. Non, poulet rôti, c'est pas industriel.
Quelque chose à côté.
Des petits pois.
Ouais, donc t'as ouvert une boîte, quoi.
T'as fait réchauffer.
T'as écossé tes petits pois?
Ah non, non, moi j'ai fait exactement comme comment elle s'appelle, Charlotte. Surgelée. La semaine dernière, t'étais pas là la semaine dernière. Ouais. Raté. Oh Estelle, t'as raté ça. T'aurais adoré. Le comparatif boîte de conserve surgelée, frais pas frais d'ailleurs.
J'ai surgelé. Ouais.
Voilà. Donc surgelé.
Petits pois surgelés. Bon, donc tu cuisines.
Ça, j'estime, c'est la grande flemme. Quand j'en arrive à ça veut dire que j'ai la flemme. Mais la plupart
c'est déjà
du
pas
temps,
mal. Hein.
Mais la plupart du temps, je prends le temps. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien ça. Je me mets la télé, je suis les informations, je discute avec les enfants, on est là ensemble et puis j'aime bien passer du temps à faire ça.
C'est quoi ton plat signature? J'adore poser cette question.
Franchement, je sais pas si j'en ai un.
Non, mais y a pas un plat que tu fais, italien, voilà, celui que te réclament tes enfants. Tu vois, moi c'est le porc au caramel par exemple.
C'est quoi?
Le porc au caramel, mes enfants me réclament ça. Ah, voilà. Ou le poulet citron.
C'est pas très français ça.
Bah, le poulet citron, si, et le porc et caramel, bah, si, pourquoi pas du porc. Excuse-moi, le porc, je me pense que c'est pas français, le caramel,
non, le
c'est breton.
Le poulet n'est pas un plat français.
Mais bah, peut-être, mais enfin, ils adorent ça. Bon.
T'as pas un plat français? Si, mais ça, c'est le truc un peu historique de la famille, ouais. les pâtes avec les boulettes de viande, c'est un tomate. Très
bien. Oui, les polpettes.
Voilà.
Ah, j'adore ça.
Oui. S'il doit y en avoir un peu signature qu'ils aiment bien, c'est celui-là, oui.
Alors c'est vrai qu'on dit souvent que maintenant les femmes travaillent, donc effectivement elles ont moins le temps de cuisiner. Mais Emmanuel Dancourt, justement, je me tourne vers vous parce que femme qui travaille, quatre enfants, est-ce que vous trouvez quand même le temps de cuisiner?
Ah oui, vraiment. Et j'aime ça en plus. Hein. Mais c'est juste une question d'organisation. Moi, je fais comme Daniel. Alors pareil, moi aussi, quand je vais chez, j'ai toujours des surgelés au congèle de petits pois, de frites évidemment de temps en temps, ou d'oignons quand j'ai la flemme pour ma tarte aux oignons de couper les oignons. Mais c'est vraiment rare. Mais ouais, je cuisine beaucoup, mais je ne fais pas que ça. Je cuisine et en même temps je fais comme toi, je regarde les infos ou je regarde une série, ou je fais les devoirs avec les gamins, ou je passe beaucoup de coups de fil en cuisinant, parce que quand je cuisine, moi je suis partie pour 3 heures. Et puis tu sais, je fais des...
Je déteste qu'on m'appelle quand j'entends que la personne fait autre chose. Ça m'énerve.
Ah, attends, mais moi si je fais pas, si je fais pas autre chose pendant les appels...
T'entends les autres, t'entends la poêle qui frit, t'entends la personne qui
l'a cassé.
C'est insupportable.
Non. Pour voir si ça t'agace.
Si ah, mais je dis, je te rappelle plus tard, je vois que tu...
Ah non, moi j'ai pas le temps. Moi dans ma vie, je n'ai pas le temps de ça. Donc c'est... Je prépare le repas, je te préviens. De soucis, puis j'entends l'autre à côté qui fait sa vaisselle, et très bien, et on discute, et au moins les dossiers ils avancent pendant ce temps-là. Non, mais comment veux-tu, en étant mère de famille de 4 enfants, en ayant du boulot, en étant présidente de MeToo Media, ce qui est un plein temps en soi, en ayant aussi des amis, une vie sociale, un chéri, etc., des parents, enfin que sais-je, comment veux-tu sinon que la vie elle tienne là-dedans, et en plus en cuisinant? Donc tu fais tout ça en même temps, mais oui, et cuisiner, voilà.
Bah oui, je
et alors, quelle est votre place signature,
Emmanuel?
Fais pas de bruit,
c'est ce qu'elle t'appelle.
Hein.
Fais pas de bruit avec les poils.
Non, mais j'aime pas entendre les gens. En fait, qu'il faut, voilà,
tu fais le silence. Tu mets le silence, tu coupes tes machins, tu remets le truc pour pas.
Non, je sais pas.
Enfin, moi, quand. Ça être la priorité, si tu
veux. Non, mais quand je cuisine, moi, soit je discute avec mes enfants, soit j'écoute la radio. Tu vois, mais en fait, j'essaie de pas téléphoner pour pas.
Ah, si, moi, c'est multitâche.
Oui, donc, ton place signature?
Et donc, alors, non, mais je réfléchis, mon plat signature, je suis un peu comme
alors,
Daniel.
Si alors, tu me le demandes,
les gamins, non, mais en fait, le plat signature, c'est ça. Qu'est-ce que les enfants réclament? Les enfants réclament la crème brûlée, les enfants réclament quand est-ce que tu refais des cannelés, maman.
Oui, que du sucré.
Ah ben, les enfants. Les enfants réclament du sucré. Après, moi, je suis très lapin à la moutarde, je suis très les potées. Moi, j'aime bien quand il y a plein de choses dans la casserole, quoi.
Trop de légumes.
Ça mijote pendant des heures.
Des plats d'hiver.
Trop de légumes.
L'humanité partout.
Pierre-Édouard Magnan, est-ce que finalement, quand même, le fait qu'on cuisine de moins en moins, c'est un peu le reflet de la société? C'est-à-dire, on veut tout de suite, en fait, on supporte plus d'attendre. Parce que la cuisine, c'est quand même de l'attente. Quand on fait un plat de grand-mère, bah, souvent, ça doit mijoter pendant 2 heures, quoi.
Bah, tu fais autre chose pendant ce temps-là.
Enfin, oui, il y a un côté, on veut. Au moment où on se dit qu'on a faim, on voudrait déjà être à table avec le plat dans l'assiette. Ce qui, même quand on fait cuire des pâtes, n'est pas tout à fait possible. Exact. C'est pas ce qu'il y a de plus long en cuisine.
Mais c'est la sauce qui est longue.
Oui, sans doute. Moi, j'ai la chance d'avoir dans le village à côté de chez moi un excellent boucher charcutier traiteur qui fait des choses merveilleuses. Et ma fille a la bonne idée de ne jamais me réclamer un plat signature. Par contre, de me dire, tiens, si tu vas, achète-moi ça, parce que là, je l'aime bien. Et pourtant, j'ai un père qui cuisine beaucoup, j'ai un beau-père qui cuisine beaucoup. Donc, en plus, je suis entouré de gens qui cuisinent, y compris les hommes. Moi, enfin, je fais réchauffer, je frie, machin, mais je veux dire, je ne cuisine pas. J'ai jamais tellement aimé ça. En échange de quoi, par contre, je suis d'excellente composition, je mange ce qu'on me donne et je ne râle jamais sur ce qu'on me sert.
Comme je
ne fais pas de cuisine, je ne râle jamais derrière ceux qui la font.
Ah oui, ça c'est insupportable. Parce que qui cuisine jamais et qui en plus te dit ah, c'est pas un peu trop salé. T'as envie de leur jeter le plat à la figure.
J'ai eu une grand-mère, le gigot était toujours trop cuit, la tarte était brûlée, on a tout su. Son gigot était merveilleux.
Si on n'est pas capable de supporter une petite critique, faut pas s'y mettre alors. Moi je trouve que c'est essentiel de donner son avis.
Ouais.
Et pas dire c'est bon, alors que même c'est pas bon.
Non, mais on peut dire c'est bon sans
faire dire la vérité.
Exactement. Toi aussi, t'as des tocs où pendant que tu prends d'amour pour un plat et tu fais le même plat pendant un mois, puis au bout d'un moment, tu te dis maman, ça fait la 5e fois le boudin aux pommes, on peut changer un peu.
Ça, je suis mariée.
Ouais. Ah ouais.
Alors, on a Vanessa en ligne qui nous appelle de Dordogne. On mange très très bien en Dordogne et qui est fonctionnaire. Bonjour Vanessa.
Bonjour à tout le monde.
Vanessa, est-ce que vous faites partie de ces Français qui cuisinent de moins en moins ou est-ce qu'au contraire, vous mettez un point d'honneur à cuisiner?
Alors moi, je mets un point d'honneur à cuisiner. J'adore cuisiner. Et alors, je suis assez partisane du faire en même temps. C'est-à-dire que je cuisine et je fais beaucoup de choses en même temps. Et j'ai surtout investi dans les bons appareils parce que comme je suis quand même un peu feignante, j'aime bien me faciliter la vie. Donc,
vous avez un Thermomix, quoi.
Voilà.
J'ai jamais pu y mettre, moi.
Voilà, mais qui est clairement mon meilleur ami. Voilà.
Bah bien sûr.
Mon, ah ouais. Mon compagnon de jeu et mon meilleur ami. Et je cuisine tous les soirs, même des fois, enfin hier, clairement, si je prends l'exemple d'hier, j'ai fini de cuisiner, c'était 22h pour faire les repas pour le lendemain. Quoi.
Vous faites du batch cooking en fait alors?
Non, même pas. Non, j'aime bien faire la cuisine en fonction de mon humeur du jour.
D'accord.
Voilà, je prévois un peu. J'ai une application qui m'aide à faire les courses et qui me donne des idées de repas parce que des fois, je sais plus trop quoi cuisiner et on tourne un petit peu en rond. Mais donc avec mon application, ça m'aide aussi à faire. Je sais pas si je peux donner le nom de l'application.
Ouais, allez-y.
Donc c'est l'application Jo, J-J-O-W que j'utilise. Ça vous donne des idées de recettes de cuisine. Ça vous fait votre panier pour votre drive. Et après, bah, à l'humeur dans la semaine, je fais telle ou telle recette que j'avais choisie sur l'application.
Et vous êtes, et vos enfants, parce que vous avez des enfants, hein, Vanessa, hein ?
Ouais, j'en ai deux.
Et vos deux enfants, ils vous réclament jamais des choses qu'ils voient dans les publicités, j'ai n'importe quoi, bah ouais, des frites, des plats surgelés, des plats préparés. Non, ils mangent ce que vous leur donnez, quoi.
Alors, ils réclament à manger, mais moi, les miens, ils vont plutôt demander pour le petit déjeuner des crêpes, des gaufres, des pancakes.
Ils ont de la chance. Voilà,
donc, souvent, le petit déjeuner chez nous, c'est... Alors, la semaine, c'est compliqué pour moi de faire les pancakes et les gaufres, mais c'est vrai que c'est la petite habitude du week-end où ils vont avoir des crêpes ou autre. Et puis après, sur la seule chose qui me réclame un peu, c'est plutôt les petits goûters industriels. Voilà, ouais. On me demande des Kinder, certains gâteaux, mais j'en achète. Mais c'est pas la base de leur alimentation.
Eh ben merci beaucoup Vanessa. En tout cas, ben voilà, ça c'est la preuve que les Français continuent quand même de oui. cuisiner. Mais vous avez plein de chiffres.
C'est pas l'exception qui confirme la règle.
Non. T'as vu toutes les émissions télé sur la cuisine,
en parlant de télé,
ou sur les réseaux sociaux.
Mais je sais. Non mais ça c'est statistique.
Ça
on passe de moins en moins de temps à cuisiner.
Voilà.
Et on passe de plus en plus de temps à table. Vous suivez?
T'es sur ton écran en fait.
Et voilà.
Ben oui.
Un Français sur deux. C'est un sondage OpinionWay que j'ai devant moi. Une famille sur deux admet aujourd'hui dîner le soir en regardant la télé.
Ben c'est ce que je fais moi.
Ah ben moi
nous, on regarde tous les soirs,
jamais,
les enfants.
Jamais.
Ah, attends, mais je vais vous raconter ce qu'on regarde. Tous les soirs, le dîner est à 20h au moment du JT. Et on regarde le JT et on discute de l'actualité.
Ah ben
et ça discute de tout ce qui se passe. Ouais.
20% des Français admettent le soir dîner en consultant leur téléphone portable.
Voilà,
il y a ces chiffres que je donnais tout à l'heure. On est passé de 68 minutes en moyenne par jour à cuisiner en 1985 en 2010, hein, et ça s'est accentué à 55 minutes en 2010. C'est une réalité, on cuisine quand même de moins en moins longtemps.
Exactement.
Et on n'a pas perdu par contre, et voire même ça s'est accentué, la mauvaise habitude des écrans pendant le repas.
Exactement, et notre invité, je suis tellement ravie de l'avoir avec nous, c'est le chef Yves Candebord. Bonjour Yves.
Ouais, bonjour tout le monde, merci
salut,
de
nous recevoir.
Ben non, mais merci Yves d'être avec nous. Yves, vous avez eu plusieurs restaurants. Est-ce que vous avez quand même l'impression que voilà, vous cuisinez évidemment, mais est-ce que vous avez l'impression que les Français sont moins attachés à la cuisine aujourd'hui?
Alors malheureusement, oui, si on prend sur la masse, les Français cuisinent moins, c'est la réalité. On le voit bien dans tous les sondages qui sortent. Et à côté de ça, voilà, il y a vraiment maintenant, je pense, pratiquement des professionnels de la cuisine à la maison. Quoi. C'est un peu le paradoxe avec l'évolution qu'il y a dans notre métier. Dans les médias, on nous voit de plus en plus en train de cuisiner. On a donné envie à toute une nouvelle génération de se remettre réellement à table parce qu'il y avait sans doute une transmission qui a été coupée. C'était souvent que les souvenirs, soit de la grand-mère ou pratiquement des fables et des contes qui étaient racontés. Mais la jeunesse se remet quand même à cuisiner. Mais moi, je pense que cuisiner, c'est un acte, c'est pratiquement un acte citoyen, c'est un acte d'éducation. Il faut savoir que le premier médicament, c'est ce qu'on se met dans la bouche, c'est la nourriture. Si vous mangez sainement, si vous mangez proprement, si vous ne mangez pas toutes les cochonneries que nous propose l'industrie agroalimentaire, vous vous portez mieux, c'est une réalité. Et surtout, les gens ont l'impression que cuisiner, alors oui, ça demande un peu plus de temps. Alors, j'entends quand on fait des plats mijotés, quand on fait voilà, il y a un peu plus de cuisine. Mais cuisiner, c'est aussi prendre une courgette, la couper en morceaux, la jeter dans de l'huile d'olive chaude, mettre un peu de fleur de terre, hop, et un peu de sel, la poêler et casser un œuf, et on a un petit plat qu'on peut faire en 3 minutes. Il y a moyen de cuisiner aussi très très rapidement. L'acte de cuisiner, c'est pas un acte difficile. C'est 3 saveurs avec des produits de saison, souvent de la même couleur si on ne va pas se tromper par rapport à l'association du goût, c'est facile. Et c'est un acte important qui est rassembleur dans le groupe familial.
Et ce qu'on dit pas assez, c'est dommage en période effectivement d'inflation et de où on parle beaucoup de pouvoir d'achat, c'est que cuisiner coûte beaucoup moins cher que d'acheter un plat industriel en fait.
Bien sûr.
Et ça on le dit jamais, et c'est fort dommage.
Mais vous avez complètement raison, mais quand même, je vais vous prendre un exemple qui est deux exemples ridicules. Les salades en sachet, amenez-les au kilo, c'est une fortune, alors qu'une laitue c'est 1 euro. Les tranches de jambon déjà tranchées qu'on achète enveloppées, ça coûte au kilo, ça coûte une fortune, alors qu'un jambon à la taille, un jambon propre fait par un bon artisan, ça coûte beaucoup moins cher. Cuisiner, quelque part, c'est faire des économies dans ton quotidien. Et pour avoir un budget qui est relativement acceptable pour tout le monde.
Alors, Yves Fandehors, vous avez participé à une émission de télé. Hein. Vous étiez juré dans Top Chef. Est-ce que, quelque part, ces émissions n'ont pas aussi coupé les Français de la cuisine? Elles sont très regardées, mais en vrai, quand on commence à regarder Top Chef, on a l'impression qu'il faut avoir fait Ferrandi, Normal Sup et tout ce que vous voulez pour faire un œuf au plat. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'en fait, ça n'a pas participé à démocratiser la cuisine.
C'est tout le paradoxe de ces émissions-là. Sur la base, on a incité à tous les jeunes que de n'importe quel milieu social à venir travailler de ses mains et de voir que des gars qui travaillent leurs mains qui ont la jouissance et qui sont heureux. Ça, on les a amenés à notre métier. Et en contrepartie, c'est là que vous avez complètement raison, on effraie un peu parce que voilà, ça devient un côté un peu artistique, un peu spectacle. Donc les gens sont effrayés de se dire « je ne suis pas capable de faire ». Et c'est vrai que c'est le côté un peu négatif qu'on pourrait dire que ces émissions de télé apportent dans les foyers. Mais je le redis, vous savez que prendre une carotte, la râper, y mettre un peu de coriandre, y mettre une pointe de curcuma et de curry, ça s'appelle cuisiner aussi. Vous voyez ?
Alors,
mais peut être simple et bon.
Alors restez avec nous Yves, hein, parce qu'on a plein d'auditeurs justement qui cuisinent, qui sont très attachés au fait de continuer à cuisiner. On a Alberto qui nous appelle de Vion en Savoie. Bonjour Alberto.
Bonjour.
Et vous donc Alberto, vous cuisinez mais alors, d'une manière un peu particulière. Hein.
Oui, alors c'est ce que j'expliquais. Moi, si vous voulez par là, au départ, bon, je suis marié, j'ai une fille qui est maintenant 33 ans, donc qui est chez elle. Donc, on faisait la cuisine normalement pour la famille. Et quand ma fille a fait sa vie, donc on s'est retrouvés, ma femme et moi. Et on était, oui, assez friands des plats cuisinés. Jusqu'au jour où, l'inflation se faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des produits qu'on appelle les produits anti-gaspi. Alors, beaucoup sur la viande, le poisson, à moins 30%. Et petit à petit, on s'est un peu tourné vers ces produits. Et on a commencé à les cuisiner. Et moi, ce que je trouve la magie de cette chose-là, c'est qu'on n'a plus de menu préconçu à chaque fois de rendre avec ma femme qu'est-ce qu'on va manger. Cela, c'est un peu une découverte. Donc, pour prendre exemple, hier, j'ai trouvé donc des grenadins de veau à moins 30%. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais sur un site, vous avez tous les sites sur les tablettes grenadins, et j'ai trouvé une petite recette qui se faisait en 10 minutes et qui est super bon. Voilà, à chaque fois, c'est une découverte à chaque fois. Et c'est vrai que ces produits à moins 30%, je les congèle, je les ressors, j'en profite pour faire une petite recette. Et sinon, je cuisine aussi beaucoup de plats que je mets au congélateur, style blanquette de veau, de bourguignon.
Vous me donnez faim, là.
Voilà. Comme on peut pas faire pour deux, c'est des plats qu'on peut pas faire pour deux.
Bien sûr.
J'en fais pour 5-6 fois que je mets au congélateur. Oui, il faut investir dans un congélateur. Et le soir, quand on n'a pas envie de cuisiner, on sort un petit plat avec des pommes vapeur, des choses comme ça, et puis voilà.
Enfin, il vaut mieux avoir un congélateur et cuisiner soi-même que d'acheter tous les jours des plats industriels. Et je pense que au fil du temps, au bout de 2-3 ans, c'est plus économique. En tout cas, bravo Alberto et on salue le travail effectivement des associations ou des entreprises comme Too Good To Go, par exemple, qui vendent des produits anti-gaspi, c'est-à-dire qui sont par exemple proches de la date de péremption ou qui sont des légumes pas beaux, par exemple, et qui les vendent beaucoup moins cher et ça permet de cuisiner de façon beaucoup moins cher. Merci beaucoup Alberto. Yves Candebord, quand on est chef, qu'on est
vous parlez de congélateur, et je pense qu'il faut dire aussi quelque chose, parce que c'est vrai que faire des légumes, parce que c'est quand même bon pour la santé,
ça paraît
compliqué, mais il faut l'avouer, il faut l'assumer, les légumes congelés n'ont pas le même goût que des légumes
c'est un peu
différent, mais attention, nutritionnellement ils sont pareils, identiques au frais, donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas le temps, mais prenez un petit sachet de temps en temps de petits pois congelés, c'est la pleine saison du petit pois. Vous n'avez pas le temps de les écosser, vous les faites congeler. Vous les mettez dans une casserole avec un peu d'eau, un peu de lait d'amande ou un lait de vache, on fait bouillir, on mixe et de suite on a une crème de petits pois. C'est rien du tout à faire.
Eh oui, j'adore.
Et cuisiner aussi, le mot cuisiner.
Mais Vitiardon, à la française. Oh là là.
Voilà, je,
prends toujours aussi l'exemple quand on fait du sport. Quand vous commencez un sport, vous faites du tennis, avant de faire un revers, vous allez mettre un certain temps, mais une fois que vous êtes habitué, vous le faites naturellement. La cuisine, c'est pareil. Il faut commencer. Au départ, on est emprunté. Et petit à petit, très rapidement, mais ça se fait naturellement. Ça devient un jeu. On a plus d'efforts à le faire. C'est vrai que cuisiner, il faut cuisiner pour la santé, pour la famille, pour le bien-être de chacun.
Moi, je milite pour le retour des cours de cuisine à l'école. Je pense que ce serait une super chose. Voilà, à la fois pour apprendre aux enfants à cuisiner, mais aussi pour plus tard, pour apprendre à faire des économies, à gérer un budget et tout.
Puis aller plus loin, pour nos agriculteurs, si on cuisine tous, si on se remet à cuisiner, il va y avoir une forte demande de produits. Donc, on va produire. C'est un cercle qui est vertueux. C'est un cercle vertueux.
Yves Condebord, quand on passe toute la journée dans un restaurant, est-ce que le soir on cuisine ?
Oui, j'adore ça. Ouais, c'est ma passion. Et c'est même, j'irai plus loin parce que quand j'ai pas le moral, quand ça va pas, le seul moyen pour que je retrouve la joie de vivre et le bonheur, c'est cuisiner. Voilà, c'est vital.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Et cuisiner en famille, il n'y a quand même rien de mieux. Quand les enfants épluchent les légumes et qu'on fait un plat à plusieurs, c'est des beaux moments de la vie et c'est des beaux souvenirs qu'on se fabrique en famille. Merci beaucoup Yves Condebord, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Greg également est en ligne. Il nous appelle du Muret en Haute-Garonne. Bonjour Greg.
Oui, bonjour à vous.
Et Greg, vous êtes cuisinier ?
Je suis cuisinier, oui, je fais à manger pour la famille. Ouais. Un salut à votre équipe, surtout parce que je suis en Haute-Garonne, mais je suis du Nord, de Lille. Donc je sais que vous avez un chroniqueur qui est de Lille. Et je suis
nous avons Rémi Barré.
Voilà, Rémi Barré, je suis supporter du LOSC.
D'accord.
Bien soutenu par votre collègue qui est en.
Ah, lui, il est pour Lens.
Oui, il est pour Lens, Fred Hermel. Mais enfin, c'est pas grave, c'est à côté.
Ouais, c'est la région.
Tout le monde n'est pas parfait.
Voilà. Oui, donc, alors, Greg, donc, la cuisine.
Ouais, la cuisine, c'est 100%, c'est 100% de ce qu'on mange à la maison. Je fais à manger que des produits frais que je vais chercher. Chez des marchands engagés, je vais chez le boucher chercher la viande, je vais acheter des légumes chez un imprimeur qui est juste en bas de chez moi.
Enfin, vous achetez jamais industriel, quoi ?
Non, parce que la malbouffe, c'est bon, ça dure un temps et on est en train de faire mourir à petit feu les Français, malheureusement.
D'accord.
Sous le contexte de se dire c'est rapide, ça va vite. Enfin,
vous trouvez le temps, en fait, vous, Greg ?
Je prends le temps.
Ouais, c'est ça. Oui, j'aime bien. J'aime bien la nuance.
On ne dit pas j'ai pas le temps de faire à manger. On a toujours le temps de prendre du temps pour soi et de faire à manger. J'ai mangé dans les plus grands restaurants. J'ai eu ce privilège-là, hein, une époque, de manger dans les plus grands restaurants, chez l'Oiseau, par exemple, dans des restaurants étoilés. J'ai même rencontré des grands restaurateurs. Et
manifestement, Greg, vous êtes passionné, vous adorez cuisiner. Mais c'est marrant parce que c'est le cas de quasiment tous les auditeurs qui nous ont appelés, alors que les chiffres démontrent plutôt le contraire. Il y a quand même Jérémy, tiens, qui nous a laissé un message de Saint-Marcel, bel accueil dans l'Isère.
Un McDo, c'est ça ?
Et non, Jérémy, il dit non, j'ai pas du tout le temps de faire à manger, et ça revient pour moi, en tout cas, moins cher de manger tout préparé. Je suis papa solo. Ça donne quoi sur l'appli, Rémy ?
Ouais, sur l'appli, il y a encore de nombreux messages qui nous disent qu'il y a une heure, on se plaignait que tout était trop cher, sauf que cuisiner, c'est l'inverse. On revient beaucoup, beaucoup moins cher. Un plat préparé maison, ça reviendra toujours moins cher qu'un plat cuisiné, et forcément, qu'un plat tout prêt, je veux dire. Et forcément, ce sera meilleur d'un point de vue gustatif et aussi d'un point de vue de la santé. Un kilo de pommes de terre ou de carottes est bon marché, nous dit Mathieu. Et puis il y a ce message aussi de John. Je suis en repos aujourd'hui, je cuisine le repas de ce soir devant Estelle Midi. Continuez comme ça et j'adore les cris de Daniel.
Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de petits bruits. On aurait des petits rongeurs aujourd'hui, Daniel. En tout cas, on embrasse John et merci de votre fidélité. Est-ce qu'on est tous devenus des feignants en cuisine ? Ça donne quoi, Rémi ?
Ah, une preuve d'honnêteté de la part de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent quand même. Oui, on est devenus feignants pour 64% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
RMC, 4h30. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, nous sommes en direct. Bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. Les premières infos en direct tous les matins, c'est dès 4h30 à la une sur RMC ce matin. La traque de Mohamed Amra qui se poursuit au lendemain de sa spectaculaire évasion. Deux agents pénitentiaires ont été tués par le commando venu l'aider à s'échapper. Et puis c'est toute une profession qui est en deuil ce matin. Les syndicats pénitentiaires appellent à une journée prison morte dans tout le pays. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, nouvelle nuit d'émeute. Alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter le texte très controversé qui modifie le corps électoral. Émotion toujours aussi vive au lendemain de la mort de deux agents de l'administration pénitentiaire tués lors de l'attaque de leur fourgon. Ça s'est passé dans l'heure sur l'autoroute A13 au niveau du péage d'Incarville, alors qu'un détenu était en cours de transfert de la prison d'Evreux au tribunal de Rouen. Trois autres agents ont été blessés grièvement. Ce détenu, Mohamed Amra, 30 ans, a pu s'enfuir avec ses complices. On en sait plus sur ce trafiquant de drogue de 30 ans qui est désormais l'homme le plus recherché de France, Marion Dubreuil.
Oui, d'ailleurs, hier matin, il quittait le tribunal de Rouen sous escorte pour retourner à la prison d'Evreux. Il venait d'être entendu par une juge d'instruction pour une tentative d'assassinat fin 2021 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il est aussi mis en examen à Marseille pour complicité d'assassinat, désigné comme le donneur d'ordre après la découverte du corps calciné d'un dealer originaire de Dreux en juin 2022. Et le narcotrafiquant pourrait bientôt être mis en cause dans un autre dossier de tentative d'assassinat l'été dernier en Espagne, cette fois-ci. La cible, un autre trafiquant de drogue originaire de Normandie, lui aussi. L'homme qui s'est évadé est dangereux, il l'a de nouveau prouvé hier. Mais pour les services spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, il n'apparaissait pas jusque-là dans le haut du spectre des têtes de réseau.
Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC. Hier, le ministre de la Justice s'est rendu au centre pénitentiaire de Caen où travaillaient les agents qui ont perdu la vie dans cette attaque pour rencontrer leurs collègues et leurs familles. Ils étaient membres d'une unité spécialisée dans ces transferts de détenu. Éric Dupond-Moretti, dans un message adressé à tous les agents du ministère, a demandé à ce qu'une minute de silence soit respectée aujourd'hui à 11h dans tous les tribunaux et prisons de France. Car aujourd'hui, c'est toute une profession qui est en deuil, Lucille Pascanet.
Derrière les grilles closes de la prison de Caen, les collègues des victimes se recueillaient hier. Damien Luce, surveillant pénitentiaire à Cherbourg et secrétaire régional FO Justice, a pu s'entretenir avec eux.
C'est toute une profession qui a impacté en fait. On est sous le choc, on est triste parce que la pénitentiaire c'est quand même une petite famille. Le nombre de collègues que j'ai eu au téléphone aujourd'hui en pleurs, c'est vraiment une journée de deuil pour notre administration.
Aucun agent n'était décédé en service depuis 32 ans jusqu'à l'attaque d'hier et la mort d'un capitaine de 52 ans, père de deux jumeaux de 21 ans et d'un surveillant de 34 ans dont la compagne est enceinte de 5 mois.
Quand vous prenez votre travail le matin, vous espérez rentrer chez vous le soir pour être avec votre famille.
Emmanuel Chambaud, secrétaire général de l'UFAPUNSA, passe les portes de l'établissement très ébranlé.
La tristesse, la colère, beaucoup sont sans voix, sous choc de la violence, la barbarie de cet acte.
Ce matin, une mobilisation aura lieu à la prison de Caen, comme devant de nombreux établissements pénitentiaires français, pour rendre hommage aux victimes, se recueillir et demander des mesures pour que le drame d'hier ne se reproduise pas.
L'émotion, le choc au sein de l'administration pénitentiaire, mais plus largement dans tout le pays, on en parle ce matin avec vous au 32-16. Comment vous avez réagi hier, évidemment, en découvrant, sûrement vous avez vu passer hein, ces images extrêmement violentes de l'attaque de ce fourgon pénitentiaire. Et plus largement, vous travaillez évidemment au sein de l'administration pénitentiaire, vous êtes surveillant, vous travaillez en prison, vous faites partie aussi des forces de l'ordre. N'hésitez pas ce matin, le 32-16 est ouvert, racontez-nous tout simplement l'ambiance parmi vos collègues au sein de votre profession, cette peur aussi de ne pas rentrer chez soi quand on va bosser le matin, cette ultra-violence désormais des voyous prêts à tout pour être libérés. Hier, on a vu ce déchaînement de violence au péage d'Incarville. N'hésitez pas ce matin à venir témoigner. Vous êtes peut-être surveillant pénitentiaire, vous travaillez plus largement dans les prisons françaises, au sein des forces de l'ordre. On vous attend, c'est très important d'entendre vos témoignages ce matin, vos réactions, votre émotion, le choc évidemment dans tout le pays. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va aussi lire tous vos messages sur l'appli RMC avec Direct Studio. Et puis après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui a adopté dans la nuit le projet de loi constitutionnelle sur la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Cette réforme, très décriée sur place, est à l'origine de fortes violences. La nuit dernière, malgré le couvre-feu instauré, l'agglomération nouméenne a été en proie à des incendies, des pillages, le pillage de commerce, mais aussi d'établissements scolaires. Le Haut Commissariat relève plus de 130 interpellations, plusieurs dizaines d'émeutiers placés en garde à vue, mais aussi une soixantaine de blessés parmi les forces de l'ordre. Les habitants de Nouméa ont vécu, comme certains le disent, une nuit en enfer, Romain Poiseau.
armée de barres de fer, parfois d'armes à feu, Cyril et une soixantaine d'habitants ont veillé toute la nuit pour défendre leur quartier.
Ils ont menacé les gens pour les faire sortir des maisons, pour brûler les maisons. Donc c'est pour ça qu'on s'organise. On arrive à les tenir à l'écart. Mais bon, après c'est des jeunes, c'est des gamins. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, ils sont complètement bourrés. Mais bon, là, ils ont détruit la ville, quoi. Ils ont tout détruit. Hein.
Cette nuit, Cyril a vu ses deux entreprises de pièces détachées automobiles brûlées.
Moi, j'ai 35 salariés qui sont sur le carreau, ils m'ont appelé ce matin. 600 ou 700 gendarmes, ça ne suffit pas, ils ne peuvent pas être de partout. Donc, ils ont abandonné certains quartiers où il y a des entreprises, donc elles brûlent les unes derrière les autres.
Les zones industrielles ont brûlé, les pharmacies aussi, mais pas seulement.
Tous les commerces, ils ont tout saccagé.
Stéphanie est une habitante de Nouméa.
Cette nuit, ils ont cramé le cinéma, une piscine municipale, les murs d'escalade.
Le mari de Stéphanie a lui aussi veillé toute la nuit, armé d'un fusil de chasse pour défendre sa maison.
Jamais j'aurais pensé voir mon mari prendre les armes, moi aller chercher des cailloux dans mon jardin pour me défendre ma maison et ma fille. C'est une nuit en enfer.
Plus de 130 personnes ont été interpellées cette nuit et une soixantaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés.
Romain Poiseau pour RMC. Noté qu'à 6h, à 6h10 tout à l'heure, nous appellerons Sonia Baquès en direct de Nouméa. C'est la présidente de la province sud pour avoir les toutes dernières infos sur place. Et donc, je vous rappelle que hier soir, l'Assemblée nationale a adopté ce texte très controversé, ce projet de loi constitutionnelle sur la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Vous vivez peut-être en Nouvelle-Calédonie, vous avez des proches à Nouméa, n'hésitez pas là aussi ce matin à vous témoigner au 3216 et on lit vos messages en direct sur l'appli RMC grâce à Direct Studio. Le Festival de Cannes s'est ouvert hier, cérémonie d'ouverture du 77e festival qui a vu défiler les grands noms du cinéma français et américain d'ailleurs, avec à l'honneur des grandes femmes puissantes. Hier, la Palme d'Or a été remise à l'actrice américaine Meryl Streep, une Palme d'Or d'honneur. Moment d'émotion après le discours piquant aussi de la maîtresse de cérémonie Camille Cotin, qui a évidemment évoqué d'emblée la vague MeToo qui touche à nouveau le cinéma. Et puis notez que le court-métrage de Judith Godrèche sera projeté aujourd'hui. Aujourd'hui en sport, on va surveiller évidemment la Ligue 1 avec deux matchs en retard. L'OGC Nice qui reçoit le PSG à 21h, match en retard de la 32e journée. Et l'OM qui se déplace à Reims, 21h. Là aussi c'est un match en retard de la 32e journée. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Beaucoup d'enjeux pour l'OM qui doit absolument gagner à Reims pour doubler Lens et accrocher la 6e place synonyme de Coupe d'Europe. Enfin, dans le ciel aujourd'hui, encore une journée bien agitée, des averses orageuses sur pratiquement tout le pays, hein. Des orages qui pourront être localement forts en région PACA, avec même de la grêle parfois. Peu de changements attendus côté température, hein. Cet après-midi fera généralement entre 16 et 21 degrés, on montera même à 24 degrés en Corse, et on fera le point complet tout à l'heure avec Géraldine.
La météo sur RMC avec BNP Paribas. Avec Tap to Pay sur iPhone et Accepta BNP Paribas, acceptez les paiements sans contact. Il suffit d'un iPhone.
Et oui, on va retrouver Géraldine dans un quart d'heure pour le coup d'envoi de Charles Matin. On sera tous ensemble dès 5h. Évidemment, vous prenez la parole quand vous le voulez au 32-16 dès maintenant. Quentin est déjà là au standard. Vous partagez notamment l'émotion, le choc après la mort de deux agents pénitentiaires. Hier, vous avez suivi évidemment ces images terribles de ce qui s'est passé au péage d'Incarville sur la 13. Ce commando venu abattre, il n'y a pas d'autre mot, deux surveillants pénitentiaires lors du transfert d'un détenu, toujours recherché aujourd'hui avec ses complices. Vous n'hésitez pas à venir témoigner ce matin, notamment si vous travaillez dans les forces de l'ordre, si vous travaillez au sein de l'administration pénitentiaire, vous travaillez en prison. Le 32-16 vous est ouvert, vous avez la priorité ce matin. Et puis venez nous dire ce que vous faites réveiller de si bonne heure. Vous le savez, on est tous ensemble pour démarrer la journée dans Charles Matin avec toute l'équipe. On va se retrouver dans un quart d'heure et d'ici là, je vous laisse avec Estelle.
Merci Charles, et on vous retrouve juste avant 5h. Ce sera après les meilleurs moments d'Estelle Midi sur RMC.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et Charlotte, dans RMC Conso, aujourd'hui, on va parler voiture. Voilà, oui. C'est quand même le deuxième poste budgétaire des Français après le logement. Un Français sur trois a déjà été confronté à un problème après l'achat d'un véhicule d'occasion. C'est quand même énorme.
Hein. Oui, c'est énorme.
Un tiers des Français qui s'est fait arnaquer lors d'un achat de voiture d'occasion. Et justement, aujourd'hui, Charlotte, vous allez nous donner 5 conseils pour ne plus vous faire arnaquer.
Oui, alors ça peut paraître simple. Le premier peut vous paraître évident, mais pourtant, il est essentiel. C'est le premier conseil, c'est de ne jamais donner un centime sans avoir vu et essayé le véhicule. Parce qu'il y a énormément de gens qui voient des annonces, qui pensent qu'ils ont là une occasion en or et qu'ils vont verser un acompte avant même d'avoir vu la voiture.
Mais non.
Et malheureusement, il y a des petits margoulins qui s'amusent à créer des annonces, à demander de l'argent, à percevoir des versements et derrière, il n'y a pas de voiture. Mais quand bien même il y aurait une voiture, c'est un risque énorme de donner de l'argent avant d'avoir vu le véhicule. Donc, on y va, on essaie.
Charlotte, ça existe quand même.
Ah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais les joueurs, ils ont peur de rater l'occasion du siècle et ils se disent, je verse un truc, quoi, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà, c'est ouais. ça. Je verse 500 euros, 1000 euros et puis ensuite, j'irai sur place. Oh, mais s'il y a un pépin, après, pour être remboursé, c'est la galère. Je vous jure qu'il y en a.
Mais ça veut dire en fait, Charlotte, ça paraît du bon sens, mais il vaut mieux aller sur place finalement que de répondre à une annonce en ligne. Quoi.
Et même dans un périmètre, je dirais, de 100 km autour de chez vous, parce que si jamais vous faites 600 km pour aller chercher la voiture et qu'ensuite il y a un problème sur le véhicule, vous devez de toute façon la ramener, puisque c'est au vendeur professionnel de régler le problème, de réparer la voiture s'il y a un souci. Sauf que ça sera cette fois à vous de faire les 600 km, ça, on ne pourra pas vous dédommager pour ça. Donc il vaut mieux faire le tour des garages autour de chez soi et choisir une voiture en fonction de ce qu'il y a disponible autour de chez soi.
Mais vous m'arrêtez si je me trompe, Charlotte, a priori, acheter une voiture d'occasion via un garage, c'est plus cher que via un particulier.
C'est un petit peu plus cher, mais c'est certaines garanties aussi que vous achetez. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez à un professionnel, vous avez une garantie légale de conformité qui dure 2 ans. Vous avez également une garantie contre les vis cachés qui dure 2 ans. Alors que si vous achetez à un particulier, vous n'avez aucune garantie. Vous avez éventuellement la garantie des vis cachés. Encore faut-il pouvoir prouver que le vendeur particulier vous a dissimulé volontairement un vis dont il était pertinemment au courant avant la vente. Et pour avoir ce genre de preuve, eh bien, bon courage, à part avec une expertise. C'est un petit peu compliqué.
Donc on est beaucoup plus protégé finalement chez le garagiste, quoi.
Oui, exactement.
Alors il y a un peu l'entre-deux entre le particulier et le garagiste, c'est le dépôt-vente. C'est bien ça ou pas ?
Ça peut être une fausse bonne idée parce que vous avez l'impression de passer par un professionnel, sauf que c'est un professionnel, mais vous n'avez pas les mêmes garanties qu'avec un garage automobile. En fait, le dépôt-vente, c'est un simple intermédiaire. Donc votre vendeur final, quand vous passez par un dépôt-vente, c'est bien le particulier. C'est pas le professionnel. Oui. Donc vous n'avez pas la garantie légale de conformité. Vous n'avez aucune de ces garanties-là qui sont prévues avec les professionnels. C'est pour ça que c'est risqué. Alors comment savoir si vous faites affaire avec un dépôt-vente ou un particulier ou un professionnel ? Eh bien tout simplement sur le certificat de cession. Si c'est Jean-Pierre Tartampion qui vous vend et pas Auto 36, eh bien ça veut dire que vous avez affaire à un intermédiaire qui n'aura pas de responsabilité.
Est-ce qu'il y a des documents obligatoires quand on achète un véhicule ? Le contrôle technique, par exemple, il est obligatoire ?
Oui. En tout cas pour tout véhicule qui a au moins 4 ans. Un contrôle technique de moins de 6 mois, il faut absolument repartir avec. Vous ne repartez jamais avec une voiture sans ce contrôle technique. Et puis il y a 3 autres documents obligatoires. C'est le certificat de cession avec le nom de l'ancien propriétaire, le vôtre, une signature, etc. Une carte grise barrée avec la date et l'heure de la vente. Et puis un certificat de situation administrative. Celui-là, on l'oublie parfois et pourtant il est primordial. Ah oui ? Parce que c'est ce qu'on appelle aussi le certificat de non-gage plus communément.
Ah oui.
Et ça vous permet de savoir si jamais il y a une opposition sur le véhicule. Si le vendeur n'a pas payé une contravention, la carte grise, elle peut être bloquée. Donc vous, après, pour aller immatriculer vous-même la voiture à votre nom, c'est la galère. Donc c'est important d'avoir ce document-là.
Comment on peut savoir si le vendeur nous cache quelque chose ou essaie de nous arnaquer, par exemple s'il a changé le compteur? Alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais avant on arrivait à changer les compteurs, donc comment on peut savoir?
Il y a énormément d'arnaques dans ce style et d'ailleurs la moitié des Français ont cette crainte de ne pas connaître l'historique du véhicule et qu'il puisse y avoir un loup derrière. Pourtant, il y a une solution très simple pour connaître l'historique d'un véhicule. Il y a un site internet qui a été mis en place par le gouvernement, ça s'appelle Istovec, et là gratuitement, avec quelques infos qui sont sur la carte grise, vous pouvez avoir un historique détaillé, donc les kilométrages relevés par les anciens contrôles techniques, vous avez le nombre de propriétaires par lequel est passé le véhicule, et tout ça, ce sont des informations qui peuvent vous servir. Par exemple, 4-5 propriétaires différents pour une voiture qui a moins de 10 ans, c'est un petit peu louche. Si la voiture passe de main en main, c'est un petit peu louche. Et bien tout ça, ce sont des informations que vous pouvez avoir avec Istovec, et si jamais vous avez une voiture qui vient de l'étranger, sachez que Istovec ne vous donnera pas autant de renseignements que d'autres sites. Il y en a qui sont payants, qui existent. Alors je vous en donne quelques exemples. Il y a Car Vertical, Auto-Origine, Odopass, etc. Si jamais la voiture a été immatriculée en Europe et pas en France.
Bah merci en tout cas Charlotte pour tous ces conseils pour ne pas se faire arnaquer lorsqu'on achète un véhicule d'occasion. Vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique de Charlotte en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. On parle de quoi demain, Charlotte ?
Demain on parle du beurre doux, beurre salé, beurre...
Mais beurre salé.
Beurre salé.
Ah non, beurre salé. Non mais beurre salé, on fait cette chronique.
Mais moi je suis normande.
Mais non, mais c'est, non, mais excusez-moi, mais c'est pas possible. Mais non, mais on va pas.
Non,
faire...
je rigole. On va pas comparer beurre doux et beurre salé, mais on va comparer beurre, margarine, beurre allégé. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces pseudo beurres, ces alternatives au beurre? Est-ce qu'elles sont vraiment meilleures?
Non, mais attendez, vous n'allez pas parler de margarine sur ce plateau.
Bon,
margarine et beurre doux. Non, mais
sujet où
enfin, Charlotte, mais
c'est le beurre salé. Il y a pas beaucoup de sujets où il y a une.
Enfin,
en Normandie, on est beurre doux.
On va dire du bien du beurre salé demain. Voilà, avec des pistos. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Charlotte Méritant, RMC Conso tous les jours 14h30. Dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Tout à l'heure, Vincent Moscato et son équipe débarquent à l'Union Bordeaux-Bègles pour une émission spéciale.
Oui, 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 bien sûr, en toute modestie. C'est quand même moi qui leur ai fait gagner leur dernier titre.
Ah bon? C'était quand?
En 91.
Ouais, j'étais même pas né.
Oh, ça va le jeunisme. Oh, nié, j'étais pas né.
Le Super Moscato Show, en direct de l'UBB, avec Louis Bielbiarré, Nicolas Deporter, Nance Ducoing et Mathieu Jalibert.
Eh ben, ça Moscato, quand même.
C'est tout à l'heure à 15h sur RMC.
Le Super Moscato Show sur RMC, avec le Kiosque à Pizza.
Le Kiosque à Pizza.
Le Kiosque à Pizza, partenaire de la troisième mi-temps.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence, Rémi, avec l'inauguration du jour.
C'est aujourd'hui qu'est donné le coup d'envoi de la 77e édition du Festival de Cannes. La cérémonie d'ouverture débutera à 19h15 depuis le Palais du Festival avec l'actrice Camille Cotin en maîtresse de cérémonie. Pour cette première journée, Meryl Streep se verra remettre une palme d'or d'honneur. 22 films en compétition pour cette édition, des stars comme Kevin Costner, George Lucas ou encore Francis Ford Coppola, entre autres. La cérémonie de clôture et la remise des prix aura lieu, elle, le 25 mai.
Et alors, a priori, on va très peu parler de cinéma hein, lors de ce Festival de Cannes. D'ailleurs, on n'a quasiment pas parlé du Festival de Cannes, sauf pour parler, effectivement, de ces acteurs qui pourraient être accusés de, d'agression, voilà, d'agression sexuelle.
Et... Il va y avoir les films, ça, oui. Déjà, on va...
Mais écoute, je sais pas,
voir, on va parler un peu plus.
T'as entendu parler de cinéma sur ce festival?
Ah oui, non, mais ça fait des années maintenant qu'effectivement, on parle... plus des à côté, néanmoins il reste quand même le festival, il reste les films, ceux qui sont vraiment passionnés peuvent les voir ou attendre qu'ils soient disponibles. Il y a, pour ceux qui sont réellement passionnés, il y a quand même moyen de savoir ce qui se passe. Après, effectivement, le Festival de Cannes, il y a toute la mousse autour, les polémiques, les...
Oui, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, et notamment grâce à Canal+, vous savez, il y avait Nulle part ailleurs, il y avait qui allait à Cannes.
Mais tu parlais pas beaucoup des films.
Ouais, mais tu vois,
même Nulle part ailleurs,
il y avait un truc glamour. Il y avait, en fait, t'attendais Cannes, tu vois. C'était un moment que t'attendais.
Oui, mais tu parlais pas beaucoup des films parce que les gens les voyaient pas. Il y avait que les spécialistes qui les voyaient, les journalistes les voyaient, mais après ils étaient pas à l'écran. Donc on essayait de te donner un
star system,
quoi. Ouais. Disant, plus la montée des marches que les films.
Ouais, voilà. Mais il y avait un côté glamour, je trouve que Cannes l'a perdu. Je trouve qu'on a plus ce truc-là.
Parce que c'est moins suivi à la télé. Il y a moins d'émissions qui vont sur place.
C'était la grande époque, effectivement, de Nulle part ailleurs. Cannes plus du coup délocalisé
une émission
qui
beau,
était une grande émission grand public à l'époque. Enfin, dans à l'époque, c'est pas si vieux, mais enfin, ça commence à faire. Donc forcément, ça a donné en même temps pour Cannes, ça a été une rampe de lancement extraordinaire. Parce que Cannes a aussi l'image d'un festival, ce qui n'est pas complètement valable, mais avec des films un peu, des fois, confidentiels, un peu abrupts, etc. Ce qui d'ailleurs n'est pas si timoré.
Des films qui viennent de loin.
Oui, parce qu'en même temps, il y a eu énormément de succès de box-office par ailleurs, Palme d'Or. C'est aussi une image tenace. Mais pour l'instant, en même temps, ils peuvent pas parler des films, les compétitions n'ont pas commencé. Après, ceux qui ont voulu faire du buzz sur une rumeur fallacieuse et complotiste, puisque tout le monde est en train de dire qu'il n'y a rien qui tient debout, en tout cas dans l'État. En tout cas, le fait qu'on nous amène, effectivement, j'irais comme on dit, c'est place au cinéma à la fin de la cérémonie. Donc, déclarons le 77e festival du film de Cannes open.
Emmanuel Doncourt, c'est vrai qu'on parle énormément des à côté de Cannes cette année, avec beaucoup d'actrices aussi qui cette année ont pris la parole pour dénoncer des agressions, des violences sexuelles. Et ce que j'ai, on a l'impression qu'on va pas beaucoup parler de cinéma là.
Alors je tique un peu sur le mot à côté parce que c'est le cœur du cinéma en fait, les acteurs, les actrices, les techniciens, les techniciennes. Ce qui s'est passé, c'est surtout l'année dernière où il y a eu ce truc incroyable où tout le monde s'est levé pour applaudir Johnny Depp qui était accusé de violence conjugale, et c'est Thierry Frémaux qui a mis le feu aux poudres en fait, en disant j'en ai pas entendu parler, j'en ai rien à foutre, moi je suis là pour le cinéma. Et en fait on ne peut pas dire ça aujourd'hui, c'est pas possible puisque c'est systémique, et je sais bien que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça, des violences sexistes et sexuelles, mais ça fait partie de ce milieu-là, du milieu du cinéma.
Non.
Alors Attends, il y avait deux. Hein. Il y avait les États-Unis, il y avait aussi l'Angleterre. Hein. Alors, en Angleterre, oui, aux États-Unis, non, mais c'est le procès américain qui a pris le dessus.
Et les deux ont été condamnés aux États-Unis.
Et les deux ont été condamnés aux États-Unis. Elle a juste été condamnée un peu plus.
Mais elle plus que lui.
Oui, mais résultat, on a dit qu'il avait été innocenté, ce qui est parfaitement faux.
Il y a eu des violences.
Mais toujours est-il que pour revenir au festival, on en a quand même parlé parce qu'on a dit que c'était un festival qui était très américain avec le grand retour des Américains qui n'étaient pas là depuis longtemps. Meryl Streep, je crois qu'elle n'est pas venue depuis 20 ans, un truc comme ça. Et si, on en parle, mais c'est bien qu'on parle de cinéma, mais qu'on parle aussi, notamment Judith Godrèche sera là samedi avec son court-métrage. Et elle a un geste cinématographique, c'est aussi pour ça qu'elle est là, sur les violences sexistes et sexuelles. Et voilà, donc c'est bien qu'on parle des deux, mais ce changement, il est intéressant. Moi, je le trouve intéressant, ce changement, qu'on sorte un petit peu de ce côté paillette, ce côté ils sont tous beaux, c'est des dieux vivants, et qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus franc. Et la Palme d'Or de l'année dernière, Anatomie d'une chute, elle est bien là-dedans, je trouve.
Ah bah c'est un super film, mais personne ne remet ça en cause. Après, moi, je trouve quand même que, et c'est très bien qu'on parle des violences sexuelles, mais Cannes, c'était à un moment aussi, effectivement, le glamour, tout le monde était beau, c'était les paillettes, etc.
Mais
ça faisait rêver quand même.
Ça ne me fait pas rêver du tout.
Mais je trouvais que c'était, voilà, tout le monde faisait un effort. Moi, j'aime l'idée que les gens s'habillent, fassent un effort, etc.
Mais sous les paillettes, on cache le côté cracra du cinéma.
Oui, bien sûr.
Les viols, les abus. Le proxénétisme, là, on a Alain Sartre qui a été dénoncé. Donc, moi, les paillettes et les beaux maquillages, les beaux bijoux très chers et les marques qui veulent bien.
C'est pas les beaux bijoux, ça. J'aimais l'idée de se mettre bien, quoi. Voilà.
Regarde, tu vois, le film qui va sortir, un petit truc en plus, là, ouais, d'Artus, qu'aucune marque n'a voulu sponsoriser parce qu'on est affaire à des gens handicapés. Moi, je trouve ça cracra. Oui. Je trouve pas ça joli. Et c'est pas parce qu'il y aura des paillettes pour la montée des marches sur d'autres films que
je te parle d'il y a 10 ans. Je parle pas de maintenant, quoi. Voilà, moi, je regardais Nuit par ailleurs, j'aimais bien voir les stars américaines. Débarqué à Cannes avec le bateau qui arrivait sur le ponton avec
voilà. C'est un milieu qui se la raconte, Estelle,
mais oui, mais bien sûr, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave,
les gens sont dupes de
mais
ça
tu peux, mais en fait c'est pas dupe, tu peux avoir aimé, je veux dire, à un moment, c'est un spectacle là. Moi, voir Decaune et Garcia qui arrivaient, qui s'ambiançaient sur le plateau et tout, moi je trouve que c'était aussi des bons moments de télé, quoi, voilà, avec il y avait Philippe Gildas, il y avait Michel Denisot.
Le spectacle était sans faute, effectivement, à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, heureusement par certains côtés, et malheureusement pour le spectacle, la vraie vie s'immisce.
A repris dessus, mais je suis d'accord.
Les décors et les maquillages craquaient un peu. Alors effectivement, il y a 10 ou 15 ans, on pouvait... il y avait le décor était beau, il y avait pas les lumières étaient parfaites, et effectivement c'était mais c'était, ça n'était jamais que du spectacle.
Et on peut avoir aimé La Belle au Bois Dormant quand on était petit, sans se dire aujourd'hui, oh là là, j'aurais pas dû aimer ce film, j'avais pas eu de consentement.
Vous allez voir, il y a des articles qui vont sortir, alors non pas du tout la liste des 10 machins qui n'existent absolument pas, et quand Mediapart fait des enquêtes, moi je les connais bien, croyez-moi qu'ils font des enquêtes extrêmement sérieusement. L'enquête de Pardieu a pris un an quand même, jamais tu sors une liste comme ça. Mais vous allez voir des articles ou des reportages qui vont sortir sur la consommation de drogue exclusive à Cannes, ça c'est un truc très cannois, ou de festival.
C'est
les gens ne contrôlent pas, de la drogue qu'exclusivement dans les festivals, les viols au festival de Cannes, les agressions sexuelles spécifiques de certains festivals. Et là, ça va être intéressant, c'est le dessous, comme tu disais, c'est le côté derrière, pas beau, qu'on cache.
On va poursuivre avec le départ du jour.
Sur son compte Instagram, la région Bretagne annonce quitter le réseau TikTok, en cause d'après une interface, un algorithme qui pousse les utilisateurs à consommer toujours plus de contenu, un impact négatif sur la santé et un manque de protection des données personnelles.
Et je crois qu'on peut dire bravo la Bretagne, quand même, Pierre-Edouard Magnan. Non mais c'est vrai.
Mais une région peut se couper, ça je ne savais pas.
Non mais en fait,
elle a décidé plus de compte TikTok, et elle avait un compte TikTok.
C'est le compte TikTok de la région.
C'est le
conseil régional de Bretagne.
Je trouve que c'est un très bon exemple.
C'est très bien, et au-delà de ce qui se passe sur TikTok, je pense qu'il est assez, ce serait bien que nos institutions, y compris assez souvent nos hommes et nos femmes politiques, réapprennent ce que c'est que de s'exprimer plus rarement. D'arrêter de se répandre sur tous les réseaux possibles et imaginables. Le premier danger, le président de la République qui n'arrête pas de se répandre dans tous les coins, en plus sans aucun succès, entre parenthèses. Je pense qu'on risque de faire un peu vieux schnock, de se rappeler les préceptes de Jacques Pilan, qui est mort il y a plus de 25 ans.
Mais aurait-on imaginé le général de Gaulle sur TikTok?
Tout à fait. Mais j'allais dire même Jacques Chirac sur TikTok.
Je pense qu'il aurait pu le faire.
Il aurait pu avec le mulot, on parlait de nulle part ailleurs, le mulot bien évidemment,
exactement.
Ça rappellera des souvenirs. En tout cas, si c'est aussi l'occasion pour que les institutions se réexpriment à bon escient, et moins souvent, et moins systématiquement, et moins sur des choses qui n'ont pas grand intérêt, je pense qu'en plus ce sera pas mal, au-delà de ce qu'on sait de TikTok et du problème d'algorithme et de maîtrise des données, bien évidemment sur ce réseau chinois, puisque c'est un réseau social chinois.
Eh bien écoutez, vous avez très bien pris la parole, Pierre-Edouard. Donc voilà, je vais tout de suite donner la parole cette fois-ci à Vincent Cirossi, notre humoriste. Cirossi n'a pas tout compris.
RMC Estelle Midi.
Serroussi n'a pas tout compris.
Salut Vincent.
Ah bon, salut Estelle, bonjour.
Vincent, aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi les Français cuisinent de moins en moins.
Des vrais feignasses Estelle, excusez-moi, vous l'êtes tous, hein. Il n'y a plus que de cuisine traditionnelle, maintenant c'est Uber Eats traditionnel. En France, t'as une coupure de Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien plus personne ne peut bouffer, voilà, c'est dramatique. L'autre soir, Daniel m'a invité à dîner, il m'a dit on fait ça à la bonne franquette, je lui ai dit bon ça va être sympa. Eh bien la bonne franquette c'était le resto en bas de chez lui, voilà. Bah, je plaisante évidemment, il m'a jamais invité à dîner. Enfin bon.
Vous cuisinez vous Vincent?
Un petit peu, mais c'est compliqué la cuisine. Estelle, pour moi, ça porte beaucoup à confusion. Un jour, je suivais une recette qui disait « Faites revenir le thon ». Du coup, bah, j'ai rappelé mon ex. Tu vois, tu peux te tromper. On peut se tromper. Non, mais même Sarko et Balkany, à la base, c'était juste une recette de cuisine. Une fois blanchi, saisir le blé et le flamber. Ils se sont juste trompés, c'est tout. On est tous nuls en cuisine, il faut se l'avouer. Même Dieu. Et page 312 dans la Bible, il explique comment changer l'eau en vin. Bah, on l'a jamais vraiment vu faire. Hein. Non, non, ça m'arrive de cuisiner. Ça m'arrive quand je reçois une femme chez moi. Voilà. Une fois par an, quoi. Cette année, je lui ai fait un petit plat italien. Ouais, elle était sous le charme. Elle m'a dit, oh, mais d'où ça vient cette petite recette? Je lui ai dit un petit village du sud de la Sicile qui s'appelle Sodexo. Ça passe à chaque fois.
Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé, là, il y a quelques instants, de la région Bretagne qui a annoncé quitter le réseau social TikTok.
Gros coup dur hein, pour les deux abonnés du compte TikTok
pas
de la région
tout,
Bretagne.
On était 100 000,
oui, à savoir
1 million.
Estelle Denis et la région Bretagne.
J'ai pas TikTok, mais...
Oui, on vous voit, Estelle, on vous voit sur les réseaux. D'ailleurs, non, suite à cette décision, TikTok a dit à la région, bah, écoutez, on ne savait pas que vous aviez un compte chez nous. Moi, je n'ai pas trop compris cette décision, parce que la région a dit qu'elle craignait pour ses données personnelles. Mais ils ont peur de quoi? Enfin, qu'on leur vole la recette du Kouign-Amann. Elle est déjà dispo sur Marmiton, aucun intérêt.
Mais vous regrettez la fermeture de ce compte quand même, Vincent?
Non, moi je l'aurais fermé.
Vous avez tort.
Non, mais pour publicité mensongère, parce que j'ai regardé un peu le compte TikTok de la région Bretagne, il n'y a pas une photo de pluie ou d'orage.
Ben non, il ne pleut pas.
Oui, bien sûr. Ben justement, ils te mettent de l'eau turquoise, du soleil.
Ben oui.
Excusez-moi, quand Quimper, ça ressemble à Tahiti, c'est qu'on te ment.
Non, mais je te jure que non.
Mais allez en Bretagne.
Mais enfin, j'y vais tout le temps.
Ben oui, ben visiblement non. Mais justement, moi je pense que c'est vous qui auriez pu sauver le compte. Parce qu'ils auraient besoin d'une bonne influenceuse, je pense. Vous auriez fait une petite story. Salut la commu. Aujourd'hui, je vais vous parler des spécialités bretonnes, l'ennui et l'alcool. Bah oui, vous pouvez retrouver ma marinière sur mon site internet Une Parisienne en Bretagne. Moins 10% avec le code promo Pull Chelou. Voilà, bisous à tous.
Merci beaucoup, Vincent Serroussi. Serroussi n'a pas tout compris. C'est tous les jours, 14h50, dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Retour d'Estelle Midi tout à l'heure. En direct à midi sur RMC et en attendant, Charles Matin avec vous, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Salut Estelle, oui, on se retrouve tout à l'heure à midi, mais tout de suite, c'est parti en direct tous ensemble à 4h56 pour Charles Matin. Good morning. Good morning.
Good morning. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin. Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC en ce mercredi 15 mai. Bon courage si vous êtes déjà au boulot, déjà sur la route, peut-être encore tranquille à la maison. Certains terminent aussi une nuit de boulot, je le sais, les courageux de la nuit, du matin. On est tous ensemble, vous le savez, dès 5h jusqu'à 6h30. C'est parti pour Charles Matin, tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, je sais que vous l'attendez. Oui, elle est là, c'est Géraldine Demory. Salut Géraldine.
Salut Charles, bonjour tout le monde.
Pleine forme, bonne humeur, oui. Vous l'entendez, malgré la pluie, on va pas se mentir. Non, c'est vrai, Géraldine qui, voilà, même quand elle a des mauvaises nouvelles, bah, arrive à le dire avec le sourire et avec douceur.
Ça passe mieux.
Et c'est un talent, je le dis aussi, c'est un secret que les habitués connaissent. Géraldine, qui est la seule Française que je connaisse, qui tient sans café de bon matin, tous les matins.
Bon, non, je suis pas toute seule. J'ai eu des messages sur Direct Studio, je sais que je suis pas toute seule.
Bon, bah, venez soutenir Géraldine si vous êtes dans la team sans café. C'est un mystère de la science pour moi. Géraldine, en pleine forme, évidemment, avec vous, j'en suis sûr, au 32-16, n'hésitez pas. Hein, Quentin et Nico sont déjà là aussi. Eux boivent du café, ça je peux en témoigner. Je les vois faire au standard. N'hésitez pas à les appeler. Vous appelez quand vous voulez le 32-16. Et vous êtes en direct sur RMC. Vous le savez, le matin, on est tous ensemble pour attaquer la journée, pour vous informer. Il y a beaucoup d'infos qu'on va partager avec vous ce matin, évidemment. Les dernières infos en provenance de Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je vous signale que juste après 6h, nous appellerons l'ancienne ministre Sonia Backès depuis Nouméa. Elle est désormais présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. Son propre père a été victime des violentes émeutes qui ont émaillé la Nouvelle-Calédonie. Deux nuits d'émeutes consécutives. L'Assemblée nationale qui a adopté le texte qui a embrasé la Nouvelle-Calédonie, c'était hier soir. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des proches en Nouvelle-Calédonie, peut-être que vous nous écoutez depuis Nouméa, il y a Direct Studio qui est ouvert pour tous vos messages, toutes vos réactions. Mais évidemment, ce matin, à l'antenne d'RMC, vous allez avoir la priorité pour partager votre émotion après la mort hier de deux agents pénitentiaires. Ça s'est passé dans l'heure au niveau du péage d'Incarville. Des hommes armés, vous avez sûrement vu ces images qui ont fait évader un trafiquant de drogue au terme d'une scène d'une violence inouïe.
Oui, ils ont tiré à bout portant sur les agents pénitentiaires qui a transféré le détenu dans un fourgon. Les deux agents décédés avaient 34 et 52 ans. Trois de leurs collègues ont été grièvement blessés. Le détenu évadé et ses complices sont toujours en fuite.
On va tout vous dire ce matin de cette traque, les dernières infos sur RMC. Et puis l'émotion à l'intersyndicale des agents pénitentiaires qui appelle aujourd'hui à une opération prison morte dans tout le pays. Appelez-nous au 3216. Vous êtes surveillant de prison, vous avez été surveillant de prison, vous travaillez au sein de l'administration pénitentiaire, plus largement au sein des forces de l'ordre. N'hésitez pas à partager l'émotion. Ce matin, vous avez la priorité, vous le savez, au 3216. On vous donne l'antenne quand vous le souhaitez. Vous composez le 3216. Vous pouvez aussi aller sur l'appli RMC. Il y a tous vos messages sur Direct Studio.
Ouais, je vois beaucoup d'émotions déjà sur Direct Studio. Eric, notamment, qui est très choqué par la mort des surveillants.
Ouais, je vois Gaëtan.